« En ce qui regarde l'archevêque, ne vous inquiétez pas, » répliqua le banquier. « Je dispose à son usage d'une muselière dont je me suis déjà servi une fois et que je lui repasserai au nez le moment venu. » Lorsque Tholoméie fut sorti, D'Artois dit à Valois, « Ce bonhomme-là, décidément, est plus fort que nous. »«
Plus fort, » répondit Valois. « C'est-à-dire qu'il nous précise dans son langage de marchand les choses que nous pensions déjà. »
Mais il s'empressa dès le lendemain de se conformer aux instructions du capitaine général des Lombards, lequel, pour une garantie de 10 000 livres données à ses confrères italiens, s'était offert le luxe de diriger la France. Un bon mois d'insistance fut nécessaire à Monseigneur de Valois pour convaincre le roi. En vain Valois répétait à son neveu
« Rappelez-vous les derniers mots de votre père, rappelez-vous comme il vous a dit, Louis, sachez au plus tôt l'état de votre royaume. » « Eh bien, c'est en convoquant tous les prévôts et receveurs que vous connaîtrez cet état. »
« Et notre saint aïeul, dont vous portez le nom, vous montre l'exemple en cela aussi. Il ordonna une grande enquête de la sorte l'an 1247. » Or, Marigny n'était pas hostile au principe d'une telle réunion. Il y voyait l'occasion de reprendre en main les agents royaux, car lui aussi constatait des relâchements dans l'administration. Mais il estimait sage de sursoir à la convocation. Il affirmait que le moment était mal choisi, alors que la misère aigrissait le peuple et que les ligues des barons s'agitaient pour éloigner de leur résidence d'un seul coup tous les officiers du roi. Il était indéniable que depuis la mort de Philippe le Bel, l'autorité centrale s'affaiblissait. En réalité, deux pouvoirs s'opposaient, s'empêtraient, s'annulaient l'un l'autre. On obéissait ou bien à Marigny ou bien à Valois. Tiraillé entre les deux parties, mal renseigné, ne sachant distinguer la calomnie de l'information véritable et incapable par nature de trancher franchement, Louis X accordait sa confiance tantôt à gauche, tantôt à droite, et croyait gouverner alors qu'il ne faisait que subir. Cédant à la violence des ligues, et sur avis de la majorité de son conseil, Louis, le 19 mars de cette année 1315, c'est-à-dire après 3 mois et demi de règne, signa la charte au seigneur normand qui allait être suivi presque aussitôt des chartes aux Languedociens, aux Bourguignons, aux Champenois, aux Picards, la dernière intéressant tout particulièrement le comte de Valois et Robert d'Artois. Ces édits effaçaient toutes les dispositions, scandaleuses aux yeux des privilégiés, par lesquelles Philippe le Bel avait interdit les tournois, guerres privées et gages de bataille. Il était à nouveau permis aux gentilshommes de guerroyer les uns aux autres, chevaucher, aller, venir et porter les armes. Autrement dit, la noblesse française retrouvait son droit ancestral et chéri à se ruiner en vraie ou fausse bataille, à se massacrer, à ravager à l'occasion le royaume pour vider des querelles de personnes. Quel souverain monstrueux en vérité dont la mémoire méritait d'être honnie que celui qui pendant 30 ans l'avait privé de ses honnêtes passe-temps. Également, les seigneurs redevenaient libres de distribuer des terres et de se créer de nouveaux vassaux, donc souvent de nouveaux profits, sans avoir à en référer au roi. Pour tout litige, les nobles ne devaient désormais comparaître que devant des juridictions nobles. Les sergents et prévôts du roi ne pouvaient plus arrêter les délinquants ou les citer en justice sans en référer d'abord au seigneur du lieu. Les bourgeois et paysans libres n'étaient plus autorisés, sauf en quelques cas exceptionnels, à sortir des terres des seigneurs pour venir se réclamer de la justice du roi. Relativement aux subsides militaires et aux levées de troupes, les barons reprenaient une espèce d'indépendance qui leur permettait de décider s'ils voulaient ou non participer aux guerres nationales et, dans l'affirmative, combien ils souhaitaient se faire payer. Marigny parvint à faire inscrire à la fin de ses chartes une formule vague concernant la suprême autorité royale et tout ce qui, d'ancienne coutume, appartenait au souverain prince et à nul autre. Cette formule de droit laissait la possibilité à un monarque fort de reprendre pièce à pièce tout ce qui venait d'être cédé. Valois pourtant y consentit, car pour lui, lorsqu'on disait « ancienne coutume », il entendait « Saint-Louis ». Mais Marigny nourrissait peu d'illusions. En esprit comme en fait, c'était toutes les institutions du roi de fer qui s'effondraient. Marigny sortit de ce conseil du 19 mars en déclarant qu'on y avait creusé le lit pour de grands troubles. Dans le même temps, la convocation des prévôts, trésoriers et receveurs fut enfin décidée. On expédia dans tous les bailliages et sénéchaussées des enquêteurs officiels qu'on appela des réformateurs, mais sans leur accorder les délais convenables à une inspection sérieuse, puisque la réunion était fixée au milieu du mois suivant. Et comme on cherchait un lieu où tenir cette assemblée, Charles de Valois proposa Vincennes en souvenir de Saint-Louis. Donc, au jour dit, Louis Hutin, ses pairs, ses barons, les dignitaires et principaux officiers de la couronne, les membres du conseil et de la chambre des comptes, se rendirent en grand équipage au manoir de Vincennes. Cette belle chevauchée attira les gens sur le pas des portes. Les gamins suivaient en criant « Vive le roi !» dans l'espoir de recevoir une poignée de dragées. Le bruit s'était répandu que le roi allait juger les receveurs d'impôts, et rien, à défaut de pain, ne pouvait davantage satisfaire le peuple. Le temps d'avril était doux, avec des nuages légers qui couraient dans le ciel au-dessus des chênes de la forêt. Un vrai temps de printemps qui redonnait espérance. Si la disette continuait de sévir, au moins en avait-on fini du froid, et l'on se disait que la récolte prochaine serait bonne, si les seins de glace ne tuaient pas les blés nouveaux. À proximité du manoir royal, une immense tente avait été dressée, comme pour quelque fête ou grand mariage, et 200 receveurs, trésoriers et prévôts s'y tenaient alignés, les uns sur des bancs de bois, les autres par terre, assis en tailleur.